Notre cher personnage naît le 21 mai 1759 au Pèlerin, près de Nantes. Ses parents sont marins et commerçants, ses aïeux également, rien de plus naturel par conséquent que leur héritier le fût à son tour. Mais très vite, on s'aperçoit que cet adolescent, fluet, nerveux, anémique et laid, manque de toute aptitude pour un métier de force. On préfère donc l'orienter vers des études religieuses. Les oratoriens le font devenir professeur de physique et de mathématiques. Il enseigne dans les collèges religieux de Saumur, Vendôme, Juilly et enfin à Arras où il se liera d'amitié avec le grand Maximilien de Robespierre. Favorable aux Lumières, il rentre à Nantes en 1789 et entame une carrière d'avocat avant d'être élu député à la Convention en 1792. Il appartient d'abord au parti des Girondins avant de voter la mort lors du procès de Louis XVI et de basculer vers le banc des Montagnards dirigé par Robespierre. Déplacé à Lyon, il est responsable avec le révolutionnaire Collot d'Herbois de la mort de plus de 1800 prisonniers royalistes exécutés par des canons chargés à mitraille et pointés à bout portant. Robespierre, qui n'a pourtant pas la conscience la plus tranquille, s'en indigne et le dénonce. Notre personnage, que l'on surnomme José, participe donc au complot visant à renverser l'incorruptible, surnom que l'on donnait à Robespierre. Le 27 juillet 1794, retranché à l'hôtel de ville, Robespierre et ses partisans sont arrêtés par la gendarmerie et guillotinés le lendemain. La terreur est enfin terminée. José devient ambassadeur, puis agent de la police secrète de Barras, un des 5 directeurs. Un rôle dans lequel il excelle. Nommé ministre de la police générale le 29 juillet 1799, sur l'initiative de Barras, il s'associe avec le général Bonaparte pour renverser le directoire lors du coup d'état du 18 Brumaire. Il fait arrêter les directeurs réticents et garde son ministère. C'est peut-être trop remercier José qui, en cas d'échec du coup d'état, se préparait à faire emprisonner le général et les autres conspirateurs. En décembre 1800, alors que le premier consul se rend à l'opéra avec Joséphine, une tentative d'assassinat échoue rue Saint-Nicaise. José ordonne l'arrestation des royalistes responsables de la tentative. Mais il finit tout de même par tomber en disgrâce une première fois en 1802 à cause de ses rivalités avec Talleyrand et deux des frères de Napoléon, Lucien et Joseph, qui obtiennent la suppression de son ministère auprès de l'empereur. José n'en devient pas moins sénateur en 1802, reçoit la Légion d'honneur l'année suivante et acquiert le château de Ferrières. Le ministre de la police est rétabli le 9 juillet 1804 après l'exécution du duc d'Enghien et siège à Paris au quai Malaquais. La police de José devient véritablement efficace avec l'établissement de nombreux réseaux partout en France. Le ministre est au courant de tout grâce à ses nombreux espions. Napoléon place alors sa confiance en José. En 1808, il est fait comte d'Empire, puis devient duc d'Otrante en 1809. Napoléon, qui est presque toujours sur un champ de bataille, lui confie les rênes de l'Empire. Une lourde erreur, car ne dit-on pas « traître un jour, traître toujours ». Et José fait fort. Il négocie des accords diplomatiques dans le dos de Napoléon. L'empereur est fou de rage, mais réagit avec panache. Il annonce la destitution de José et son remplacement par le général Savary. Me laisserez-vous un peu de temps pour trier mes archives avant de vous remettre les clés de mon ministère, demande José à Savary. Ce dernier de bonne grâce accepte et s'en mord ensuite les doigts. José profite du temps accordé pour faire brûler à peu près tout ce qui aurait pu être utile à son successeur. C'est dans un ministère donc vidé de toute information importante que s'installe Savary pendant que José se retire paisiblement dans son magnifique château de Ferrières, en banlieue parisienne. Informé de la destruction des archives de la police, Napoléon s'emporte et exile José. Le ministre déchu part se faire oublier quelques mois en Italie et revient à Aix pour jouir de sa sénatorie, une sorte de rente financière juteuse annexée au titre de sénateur. Même s'il aurait préféré un poste aux affaires étrangères, il retrouve son ministère de la police générale durant les 100 jours, étant le seul à se présenter. Mais le ministre n'a pas perdu ses mauvaises habitudes, et à peine arrivé, il prépare le retour de Louis XVIII, comme l'a fait Talleyrand, son grand rival, en 1814. Lorsque Napoléon est à nouveau battu à Waterloo et qu'il se rend à l'île d'Aix, José lui interdit de rebrousser chemin et le pousse à s'embarquer sur le Bellérophon. Talleyrand pousse quant à lui Louis XVIII à se débarrasser de José. Il met en avant l'idée que José, ancien régicide, ayant voté la mort de Louis XVI et manipulateur, est une menace pour la monarchie restaurée. Sous cette pression, José est contraint de démissionner le 19 septembre 1815. Il perd ainsi toute influence politique et finit par s'exiler en Autriche. En 1816, Louis XVIII condamne donc les régicides de 1793 à l'exil. José gagne alors Prague puis Trieste. Très riche, il y vit confortablement et y rédige ses mémoires. Joseph Fouché rend son dernier souffle dans la nuit du 25 au 26 décembre 1820.